Femme novatrice.
Femme novatrice.
Femme novatrice avec Sophie Nanin.
Bonjour et bienvenue à Femme novatrice pour écouter et partager avec vous les échos de leur challenge. Aujourd'hui, je suis ravie et fière d'accueillir Cécile Perret, fondatrice de Oser la diversité. Bonjour Cécile.
Bonjour Sophie, merci de m'accueillir.
Avec grand, grand plaisir. Parce que là, c'est quand même oser de la diversité, j'aime bien. Alors, je sais que vous vous êtes mis à votre compte, investi, impliqué. Mais oser la diversité, c'est quand même pour moi votre marque de fabrique, votre personnalité, l'audace, enfin tout ce qui peut vous caractériser et bien évidemment l'humain.
C'est la valeur principale, essentielle, et je crois que c'est la valeur qui manque à notre siècle.
Ah, ça, c'est un bon début. Ça, c'est un autre siècle. Là, je suis bien d'accord par rapport à ça. C'est-à-dire, effectivement, de rien lâcher. Et puis surtout, sortir des cases. Et, chers auditeurs, vous allez comprendre. Et donc, les stéréotypes, stop, stop, stop. Alors, là, simplement, est-ce que déjà, en quelques mots, vous pouvez expliquer, mais oser la diversité, c'est la neurodiversité que je voulais évoquer. Est-ce que là, en quelques mots, vous pouvez expliquer à nos auditeurs et rappeler exactement ce que c'est?
Si on donne un synonyme de la neurodiversité, on parle de diversité cognitive. Mmh. Finalement, quand on parle de neurodiversité, on pourrait dire qu'on parle de tout le monde parce que personne n'a un cerveau qui fonctionne de la même manière que son voisin. En France et globalement dans les pays anglo-saxons, la neurodiversité, c'est les cerveaux qui ont un fonctionnement un peu singulier, qui sort de la norme au sens statistique du terme. Mmh. Donc là-dedans, on va retrouver les personnes qui sont dyslexiques, on va retrouver les personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme, on va retrouver les personnes qui sont concernées par un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. On y met aussi le haut potentiel intellectuel, même si ça fait débat. Voilà, donc c'est tout ça la neurodiversité. Et ce qui est essentiel de dire, c'est que c'est pas loin de 15% de la population et qu'on a tous dans son entourage un neuroatypique quelque part.
Donc là, en démarrant comme cela, déjà, ça clarifie les choses. Mais alors là, on met les pieds dans le plat, dans le sens que souvent, c'est donc lié à handicap. Mais handicap, c'est toujours, on parle moteur. Donc là, ça veut dire que ça fait partie d'un handicap invisible. En fait, les gens, par méconnaissance, vont un peu dans tous les sens. Est-ce que là-dessus, vous pouvez aller justement un peu plus loin?
Alors, pour ne fâcher personne, je vais tout de suite dire que le haut potentiel intellectuel sort de tout ça et ne rentre pas dans le champ du handicap, dans la définition, définition du terme. Mais effectivement, les autres troubles que j'ai évoqués font partie des troubles neurodéveloppementaux et font partie des 80% des handicaps invisibles. C'est vrai que on a la représentation du handicap en France, c'est quoi? Si on regarde, c'est quoi le panneau qui représente le handicap? Le panneau qui représente le handicap, c'est un fauteuil roulant. Déjà, on pose quelque chose d'entrée en disant, ben voilà, finalement, le handicap, c'est quelque chose de visible et qui empêche la mobilité. Combien d'histoires on peut lire sur des gens qui ont une carte mobilité inclusion et qui sont debout et pas en fauteuil roulant et qui veulent leur place dans le métro et qui sont obligés de se justifier pour pouvoir s'asseoir, alors qu'il y a certainement un handicap invisible qui vient empêcher une station debout prolongée. Voilà. On a un biais. On a déjà un biais par rapport à l'approche du handicap en France sur ce côté visible, invisible. Et pourtant, 80% de handicap invisible, quand on parle des aménagements en entreprise, il y en a une majorité qui ne nécessite pas d'aménagement finalement. Mmh. Et malgré ça, quand on ose mettre qu'on a une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé sur son CV, ça ferme beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de portes.
Et là, ça serait dire que, voilà, je prends le pôle français, hein, simplement, sur le fait de l'éducation reçue, c'est statué, c'est comme ça, c'est installé. bon, les stéréotypes handicap, bon, il y en a partout, et beaucoup en ce moment.
Oui.
Mais à ce niveau-là, ce serait lié à ça, et qu'aujourd'hui, il y a une plus grande ouverture, c'est quand vous dites tout cela, on voit autisme, par exemple, on en parle de plus en plus, il y a beaucoup de personnes impliquées, les médias en parlent, même si... J'avoue que j'aime beaucoup les médias, mais quand même, c'est le profil du verre à moitié vide. C'est pour ça que là, aujourd'hui, vous êtes avec nous pour justement éclairer tout ça et qu'on voit le côté positif de l'histoire. Mais je dirais que sur le côté, par exemple, autisme, c'est un peu mieux compris, c'est un peu plus ouvert, il y a un peu plus d'action, je sais pas.
En fait, ce qui se passe, il y a plusieurs choses qui se combinent pour qu'on ait une plus grande visibilité. La première, c'est que la recherche avance et que les neurosciences, notamment, permettent des avancées sur la compréhension du pourquoi, de l'origine de ces troubles neurodéveloppementaux. Si on parle de l'autisme et de la psychanalyse où c'était la faute de la mère, et on l'entend encore, on a quand même bien évolué là-dessus en sachant qu'il y a des causes génétiques, il y a des causes environnementales, qu'il y a plein de choses, mais enfin, ce n'est pas la faute de la mère. Si on parle des troubles neurodéveloppementaux au sens plus général, là c'est pareil, les neurosciences avancent. Donc on a déjà cette avancée scientifique qui permet de dire... voilà, on sait que ça existe, on cherche les origines, on cherche à comprendre l'impact que cela peut avoir et on cherche à trouver des stratégies pour faire en sorte que ça soit moins impactant sur les personnes concernées. Et la deuxième chose, c'est quand même en France, on a une loi dont on va fêter les 20 ans là en 2025, le 11 février, donc la loi du 11 février 2005, qui a fait en sorte que l'accessibilité pour les personnes handicapées soit inscrite dans les textes. Et c'est fabuleux, parce que le fait de l'inscrire derrière, on a généré un certain nombre de choses. Moi, mon expérience, mon passé dans l'éducation nationale, où je suis devenue personnelle de direction en 2006, m'a permis de voir la montée de l'inclusion au sein du système scolaire. Et finalement, le fait qu'on travaille sur l'inclusion dans l'éducation nationale, notamment, fait qu'il y a des ouvertures qui se font, fait qu'on y pense davantage. Le fait que ça soit inscrit dans la loi, ça fait que derrière, il y a des obligations. L'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, les 6% obligatoires dans les entreprises de plus de 20 salariés, c'est la loi, c'est inscrit dans la loi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait rien avant. Ça veut dire que là, c'est davantage ancré dans le marbre et que ça a un impact supplémentaire sur la société. On peut se dire, 20 ans, est-ce qu'il y a suffisamment de choses qui ont été faites pendant ces 20 dernières années ? Peut-être pas. Par contre, ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est mieux qu'il y a 20 ans. Donc, regardons,
regardons devant,
regardons les choses évoluer et disons-nous que cette loi, elle existe, elle a des effets et c'est formidable.
Ouais, mais ça veut dire quand même que là, en 20 ans, ça existe depuis effectivement un moment. Comme vous disiez tout à l'heure, ben c'est maintenant que voilà, ça y est, ça commence à ouvrir dans la façon de raisonner. Alors bon, peut-être que notre charmante pandémie a fait aussi des réflexions à ouvrir, à voir ce qui se passe, la santé, enfin l'état, l'humain, et, qui a pu effectivement amener des réflexions à ce niveau-là. Maintenant, sur ça, vous de votre côté, donc la sensibilisation. Vous êtes énormément là-dessus.
Oui.
D'ailleurs, plus tard, à la fin, s'il y a deux livres auxquels vous pensez, parce que les auditeurs que nous avons sont aussi bien de Cahors, Rodez, moi qu'à Toulouse, au contraire, justement, c'est ce que j'aime bien, pour leur donner l'info et qu'eux, on leur transmette effectivement de cette actualité-là. Mais sur, effectivement, la sensibilisation, vous opérez d'une façon, justement, ludique qui m'interpelle. Notre charmant disparu, alors voilà, je vous laisse opérer le présenter, mais ce qui est quand même très subtil pour pouvoir capter l'attention et comprendre surtout.
Quand j'ai décidé de créer donc un escape game sur les troubles neurodéveloppementaux, je me suis dit il faut sortir de la dramatisation des choses Il faut rendre humain les choses, hein, ça va être un peu mon mot du jour. Et il faut rentrer par quelque chose où les gens vont jouer pour comprendre. Je me suis dit souvent que tout ce qu'il y avait comme formation, sensibilisation sur les troubles neurodéveloppementaux, c'était très régulièrement des PowerPoint. Et comme je dis, se faire entendre, se faire dire dans le cadre d'une formation que quand on est dyslexique, on confond peut-être les B et les D. Ok, c'est ce qu'on va entendre si on interroge quelqu'un dans la rue. Mais ça fait quoi en vrai de confondre les B et les D? Et en fait, moi, j'avais envie que les personnes ressentent les choses, mais sans que ça soit un mélodrame. Et donc, j'ai sollicité quelqu'un pour m'aider sur la création du jeu, hein, on peut le citer,
Jérôme
Tomasi de Mister Wed.
J'ai participé, effectivement, chers auditeurs, à ce jeu. Donc, du coup, c'est la valise disparue. D-I-S apostrophe P-A-R-U. Et donc, à ce niveau-là, ça a été effectivement très compliqué, on va dire ça, parce que n'étant pas dedans, il y avait cet œil extérieur, mais en tout cas, par rapport à votre binôme, là, ça a été une belle réussite pour justement rentrer un peu comme je vais faire la vieille dame, là, mais Cluedo, enfin, tous ces jeux-là où c'est assez compliqué, c'est devenu effectivement un jeu à plusieurs, un jeu de société. Et grâce à cela, alors, on s'est effectivement éclaté, on a pris beaucoup de choses, mais comment vous avez fait pour le monter ? Parce qu'il y a une magie dans cette mallette, enfin c'est même pas une mallette, c'est carrément une grosse malle
qui se promène.
Voilà, qui se promène. Mais comment vous avez opéré au niveau de cet escape game pour qu'il y ait toute cette logique, cette compréhension par rapport à ça ? Comment ce travail s'est mis en place et comment ça, vous avez opéré ?
Alors, moi, j'avais envie de faire des ateliers qui permettent de se mettre en situation. Donc ça, c'était la base. Je voulais faire vivre les choses. Et la deuxième chose, c'était faire jouer les gens. Et faire jouer les gens dans un escape game, donc ça voulait dire qu'il fallait inventer un scénario, il fallait réfléchir, et il fallait créer une cohérence entre les différents ateliers qu'il allait être créé, qui allait être mis à la disposition des personnes qui allaient jouer. Et là-dessus... Jérôme a été très fort aussi, hein, parce que Jérôme n'y connaissait rien en troubles neurodéveloppementaux. Et moi, j'avais joué un ou deux escape games, mais je n'étais pas vraiment en capacité, si j'ai fait appel à lui.
L'artiste et la scientifique.
Voilà, c'est ça. En fait, ça a été cette association-là. C'est-à-dire que moi, je lui ai demandé de rentrer dans mon monde.
C'est ça qui est génial.
Je l'ai abreuvé de vidéos, j'avais vu quelques jeux sur internet, des documents que j'avais faits, des formations que j'avais faites. J'avais déjà commencé à faire des formations avec des ateliers immersifs, et donc je lui ai montré ce que j'avais fait, et donc il s'en est inspiré pour créer le scénario et pour qu'on puisse créer imaginez ces ateliers qui, en plus du côté énigme à résoudre de l'escape game, puissent mettre sur chaque atelier que le participant exécute, puisse se retrouver en situation de dyslexie, dysorthographie, dysgraphie, etc., etc.
Oui, parce qu'en fait, là, on était, par exemple, je l'ai testé, c'était 6 équipes,
oui.
On avait tous ces jeux de cartes, effectivement, avec nous. Il y avait même des énigmes, questionnaires. Enfin, c'est beaucoup de choses, quoi. C'est pas que du design, hein. C'est vraiment toute une compréhension, même à la limite, c'est un peu similaire comme dans la rue, là, quand on va faire, effectivement, les escape games, mais en extérieur, lié à l'histoire, etc., etc., quoi.
Ouais.
Donc, ça a été quand même un long travail et qui est surtout compris.
Oui.
Parce que justement, comme là, vous disiez, ils ne connaissaient rien à votre univers. Nous non plus, on ne connaissait rien. Et il fallait qu'on comprenne tout, que ça soit compris de 7 à 77 ans.
C'est ça. Et ce qui est magique, c'est que c'est un escape game qui est un peu long, pour le coup. Mais les gens ressortent fatigués. Et je trouve ça génial. Parce que finalement, en l'espace d'1h30, 2h de jeu... les participants comprennent l'impact des troubles neurodéveloppementaux sur la vie quotidienne.
Alors oui, mais je rajouterais à ça quand même, il y a une partie d'humilité là. C'est aussi qu'on rend fatigué, c'est parce qu'en fait ça nous interpelle tellement, on est passionné sur ça, qu'on est énormément concentré.
Oui.
Et vous le savez mieux que personne, puisque vous êtes dans ces métiers de tout ce qui est relations humaines, ressources humaines. La concentration aujourd'hui, on est plutôt dispersé un peu de partout. Maintenant sur ça, on était aussi fatigué parce qu'on était... Voilà, on pensait à rien d'autre et on était aussi sur ça.
Et on pensait à rien d'autre et on se retrouve en équipe avec des gens qu'on ne connaît pas forcément.
Non, ça c'était top.
Et on fait travailler l'intelligence collective parce qu'au fur et à mesure qu'on passe sur les différentes énigmes, moi je vois les groupes repérer les compétences des uns et des autres. C'est-à-dire qu'au départ, ils se cherchent, ils regardent comment ils travaillent. Un tel, il va faire ça. Un tel, il va prendre un peu le lead sur telle partie. Et puis, au fur et à mesure de l'avancée, on sent qu'il y a une organisation qui se met en place dans les équipes. Mmh. Avec, lui va faire telle partie, elle va faire telle partie. Lui va réfléchir comme ça. Et il y a une complémentarité qui se met en place. Et c'est un vrai moyen de se connaître aussi.
Mais il n'y a pas une compétition, parce que là nous, on ne se connaissait pas du tout tous ensemble. Alors, je sais que vous le faites aussi en interne dans les entreprises. Mais même s'ils se connaissent, il n'y a pas quand même cette compétition pour mettre en avant un peu son savoir, non ?
Non.
Au contraire, ça humanise énormément. Il y a cette insouciance, adolescence, cet état d'esprit.
Il y a le côté jeu qui fait que... On est dans le ludique et donc il n'y a pas de pression. Et en même temps, il y a la pression de réussir et puis il y a cette immersion dans un monde inconnu.
Donc c'est par équipe, en fait, je voulais plutôt dire ça.
Oui.
C'est qu'en fait, l'équipe va se fédérer grâce à la vallée disparue. Et c'est les équipes en face à face qui, là, en revanche, de compétition,
peuvent être en compétition.
Alors, avec le sourire et les zygomates comme ça.
C'est toujours
haut.
Ça. Donc, il y a toujours quelque chose de très positif. Et après, c'est des moments où les gens sont complètement en confiance. C'est-à-dire qu'ils sont dans un... Alors, régulièrement, j'ai des gens qui sont concernés, qui viennent, quand je suis en entreprise, qui viennent jouer. Parce que ils veulent voir un petit peu, parce qu'ils n'en ont jamais parlé, et puis ils se disent que c'est un sujet qu'on est en train d'aborder, que ça peut être intéressant, parce qu'ils se posent des questions en se disant « peut-être que je suis concernée ». Et pareil, au bout de 2-3 tours, on est avec des gens qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, mais on est dans un environnement où on peut dire les choses.
Donc ça voudrait dire que la valise en elle-même... qui voyage, ça peut être pas que de la sensibilisation, ça peut être aussi de l'adaptation, c'est-à-dire que ceux qui peuvent être éventuellement donc liés à cette neurodiversité, d'en jouer, de trouver à la limite mieux leur place, mieux comprendre.
Alors, en tout cas, être capable de dire qu'ils sont concernés ou de se dire, bon, en fait, là, ça me confirme que je suis concernée, mais il faut que j'aille faire un diagnostic. Et derrière, avec des impacts sur... OK, je suis là. Je peux dire à mes collègues que je suis concernée par. Il y a le référent, la référente handicap de l'entreprise qui est par là. Je vais pouvoir aller lui parler. Et derrière, j'ai des aménagements qui vont être mis en place. J'ai des gens qui vont faire des démarches pour demander finalement la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé qu'ils n'avaient jamais demandé. En se disant, bah oui, peut-être que ça me permettrait d'avoir un logiciel qui corrige des fautes d'orthographe qui me rendrait la vie tellement plus simple quand j'envoie un mail.
Donc, ça voudrait dire que vous ouvrez, grâce à votre valise, en même temps, un regard extérieur, mais surtout une façon de voir à 360 degrés.
C'est ça.
Alors qu'avant, ils n'étaient pas effectivement là-dessus. Parce que quand on parle du handicap, je me dis 360 degrés, mais en même temps, 365 jours par an, on est concentré sur quelques jours dans l'année.
Oui.
Mais en fait, c'est 365
jours. C'est tous les jours. C'est tous les jours.
Et vous facilitez tout cela, en fait.
Je facilite la communication. On est de nouveau dans l'humain. C'est-à-dire que là, voilà, j'ai vu des gens se mettre à pleurer sur certaines énigmes avec une question. Je me rappelle d'une dame sur l'énigme du trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Elle fait l'énigme, dans son équipe, ils le font. Et puis, je parle du TDAH et je lui dis, mais voilà, c'est comme hier, un ami là qui a un TDAH sur Facebook, il a mis encore qu'il avait fait déborder son lait dans la casserole. Et là, la dame me regarde et me dit, c'est pas normal de faire déborder son lait tous les jours dans la casserole. Et là, je regarde ces deux, c'était une équipe de trois, c'est les deux autres participantes. Et je lui dis, non, pas vraiment. Et elle, de fondre en larmes, parce que finalement, elle était venue chercher ça. Elle était venue chercher une explication à quelque chose qu'elle vivait, où elle sentait que c'était pas ça. Et j'ouvrais une porte. J'ouvrais une porte à une compréhension de se dire, c'est peut-être ça qui me pourrit la vie, qui fait que j'ai ce fonctionnement. Et peut-être que, ben voilà, maintenant je sais, je vais peut-être aller plus loin dans le diagnostic et puis je vais peut-être trouver des stratégies qui vont me permettre de le vivre plus facilement au quotidien.
Il faut un certain quand même courage de cette personne pour venir. Et en plus, là, elle est effectivement interpellée par rapport à un témoignage que vous racontez. Et elle-même, là, donc, ça a des... à déstabiliser, non, mais dès qu'il y a de l'émotion, de la sensibilité qui transperce aujourd'hui, on n'est plus tellement habitué à ça. Comment ont réagi les autres personnes à côté ? Ça a été, elle s'est sentie justement soutenue.
En soutien. En fait, l'escape game, il crée ça. C'est-à-dire qu'il crée cet environnement de confiance où on va pouvoir poser les questions qu'on se pose peut-être depuis 2000 ans sur soi-même, sur son voisin, sur son collègue, sur son enfant. Où on va pouvoir dire les choses. C'est une espèce de moment hors du temps où c'est permis de dire, où c'est permis d'échanger, où c'est permis de questionner, où c'est permis d'aller plus loin. Et c'est le jeu qui permet ça, parce qu'on fait tomber toutes les barrières hiérarchiques. Voilà, on est juste des humains qui sont en train de se confronter à certaines choses. Et confronter, c'est pas lutter.
Non.
Voilà, c'est vraiment...
On la rencontre, on échange, on avance, voilà. On construit des choses.
On est juste des humains et on se rend compte qu'on est humain. Et puis on se rend compte que ben, moi, il y a des jours où quand je suis fatiguée, je fais des fautes d'orthographe. Mais c'est pas pour ça que je suis dyslexique. Mais par contre, ben, y a des gens, c'est tous les jours. Voilà. Et c'est tous les jours une pression. Et ah oui, ça fait ça.
Alors pour chers auditeurs, c'est donc Cécile Perret, c'est P-E-2-R-E-T, et disparu, donc c'est D-I-S, D-Y-S, oh là 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 là, voilà, écoutez là, allez-y Cécile.
D-Y-S, apostrophe, P-A-R-U,
voilà.
Disparu.
Et Instagram, ou sinon sur LinkedIn, pour ceux que ça intéresse, mais où que vous soyez, là, ceux qui nous entendaient, n'hésitez pas à aller plus loin. Juste, est-ce qu'il y a un livre qui peut sensibiliser, qui puisse aller compléter un peu tout ça, de lecture
Alors, en lecture, j'ai...
Un qui soit...
J'ai un conseil là à donner. Un conseil à donner. Il y a une revue qui vient de sortir qui s'appelle Zèbre et compagnie.
Ah, ça, j'ai vu.
Et avec Claudine Proust, Elvire Cassan, et qui font...
Ah, ça vient de sortir,
Alors, il est sorti, le premier numéro est sorti en octobre, là, et il devrait y avoir un deuxième numéro incessamment bientôt, là.
Ah ben, ça, c'est le meilleur
moyen pour nous tous. Aborde les différents troubles neurodéveloppementaux et la neurodiversité, parce qu'ils abordent aussi le haut potentiel intellectuel, de manière scientifique et construite.
Parfait, voilà.
Et avec très vulgarisé, donc c'est intéressant. Et ils ont un site, c'est Zèbre Média, donc voilà. Et Elvire Cassan, une des journalistes, a écrit L'Odyssée des 10, qui peut être intéressant.
Mais parfait.
Un livre
pour vos amis, vos enfants, vos petits-enfants et autres, pas de soucis. Mais alors, ça veut dire que vous, de votre côté, avec le pôle santé, vous quand même facilitez quand même beaucoup de choses. On va arriver malheureusement à la fin, mais je dirais que sur le côté santé, il y a pas mal de nouvelles générations qui sont dans cette direction.
Le côté santé...
Ça se mixe bien, ça.
Le côté santé, le côté qualité de vie au travail, le côté responsabilité sociale et environnementale. En fait, si on regarde, le handicap, c'est au centre de tout ça. 50% des personnes vivront à un moment une situation de handicap dans leur vie. Donc bon, allez, on est un sur deux à être concerné à un moment ou à un autre. Faut juste mettre ça au centre et se dire qu'il y a plein de choses à travailler et souvent des choses à faire qui sont uniquement du bon sens.
Alors ça me va bien. Alors bon sens, et donc avoir le sens des responsabilités, ouais. Être hors des cases, sortir des stéréotypes.
Sortir
s'il vous plaît,
des stéréotypes, voilà, arrêter de penser qu'un autiste n'a pas d'émotion, arrêter de penser qu'un dyslexique ne peut pas être un manager. Voilà, il y a plein de choses comme ça, qu'un TDAH ne peut pas s'organiser. Des fois, ils ont des stratégies de compensation qui servent à tout le monde.
Mmh. Ouais, voilà. Ouvrez les yeux, oui, écoutez, oui. Observez. Mmh. Bah, Cécile, merci infiniment d'être venue et oser la diversité. Lâchez oui. rien. Je vous suis. Donc,
merci,
chers auditeurs, Zèbre et compagnie, ouvrez le jeu, passez le message à ce niveau-là et on se retrouve de toute façon la semaine prochaine.